Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la collaboration d'Anne-Marie Cavalier. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Après un été riche en émotions de tous ordres, nous voilà à nouveau réunis par la pensée autour d'une parole qui nous invite à nous renouveler chaque jour. Quand cette période, qui est pour beaucoup d'entre nous celle de l'organisation et des projets pour cette nouvelle année qui va nous conduire jusqu'à l'été prochain, nous sachions faire à celui qui nous appelle et nous convoque la place qui lui revient. Bienvenue à toutes et à tous. Amen.
Avec le psaume 89, louons notre Dieu. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles. Seigneur, et l'assemblée des croyants, ta fidélité. Seigneur, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? C'est l'amour qui rayonne de toi. Heureux le peuple qui saura t'acclamer tout le jour, à ton nom il dansera de joie. Amen.
My God is a rock in a weary land, a weary land in a weary land. My God, He is a rock in a weary land, a shelter in a time of storm.
My God is a rock in a weary land. My God is a rock in a weary land, shelter in a time of storm.
Stop and let me tell you about chapter one, when chapter the Lord God's work was just begun.
Just
stop
begun.
And let me tell you about chapter two, when chapter the Lord two. God's written his Bible through.
Hallelujah.
Stop and let me tell you about chapter three, when
chapter
the Lord
three.
God died on Calvary. And my God, He is a rock in a weary land. A weary land in a weary land. My God, He is a rock in a weary land, a shelter in a time of storm.
My God is a rock in a weary land, weary land in a weary land. My God is a rock in a weary land, shelter in a time of storm.
Stop and let me tell you about the chapter four,
chapter
when the
four.
Lord God visited among the poor.
Oh my
Stop
Lord.
And let me tell you about the chapter five,
chapter
when the
five.
Lord God brought the dead alive.
He's
Stop
alive.
And let me tell you about the chapter six, when
chapter
He went
six.
In Jerusalem and He healed the sick. Oh my God, He is a rock in a weary land, a weary land in a weary. I know He is a rock in a weary land, a shelter in a time of storm.
My God is a rock in a weary land, weary land in a weary land. My God is a rock in a weary land, shelter in a time of storm.
Stop, oh, let me tell you about the chapter seven. Died and risen and went to heaven. Stop and let me tell you about the chapter eight. John seen Him standing at the golden gate. Stop and let me tell you. my Jesus,
oh my Jesus,
a shelter in a time of storm. Oh my Jesus, and I know he is a rock in a weary land, a weary land, in a weary land. I know he is a rock in a weary land, a shelter in a time of storm.
My God is a rock in a weary land, weary land, in a weary land. My God is a rock in a weary land, shelter in a time of storm.
Oh my Jesus,
oh my Jesus,
oh my Jesus, he's a rock, a rock, in a weary land.
Oh my Jesus, oh my Jesus,
oh my Lord.
Maintenant encore, comme au temps biblique, des hommes se lèvent. Nouveaux prophètes qui, tel Amos, dénoncent le mal dont nous sommes coupables. L'un d'entre eux, Philippe Claudel, nous dit « Vous convoitez l'or et répandez la cendre. Vous souillez la beauté, flétrissez l'innocence. Partout vous laissez s'écouler de grands torrents de boue. La haine est votre nourriture, l'indifférence votre boussole. » Vous êtes créature du sommeil, endormie toujours, même quand vous vous pensez éveillée. Vous êtes les fruits d'une époque assoupie. Vos émois sont éphémères, papillons vite éclos, aussitôt calcinés par la lumière du jour. Vos mains pétrissent votre vie dans une glaise aride et fade. Votre égoïsme vous engraisse. Vous tournez le dos à vos frères et vous perdez votre âme. Votre nature se fermente d'oubli. Comment les siècles futurs jugeront-ils notre temps? Pourtant, Seigneur, en dépit de ce que nous sommes, nous voulons nous souvenir de cette promesse que tu nous as faite et par laquelle nous pouvons être restaurés. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Amen. Ainsi restaurés, nous pouvons suivre la loi de Dieu telle qu'elle nous est donnée dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, les versets 6 à 9. Brise les chaînes injustes. Dénoue les liens de tous les maux. Délivre ceux qu'on opprime. Mets fin à toute servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Recueille dans ta maison le malheureux sans asile. Couvre celui qui a froid. Ne te détourne pas de ton frère. Allez-vous-en sur les places et proclamez que le Seigneur est roi, que le Christ est vivant et qu'il revient bientôt. Amen.
Avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à un instant de recueillement. Avant d'ouvrir ce livre, dialogue entre toi et les hommes, nous te demandons d'envoyer sur nous ton esprit, afin que ces paroles que nous allons lire nous nourrissent et deviennent pour nous paroles de vie. Amen.
Nombre, chapitre 11, versets 25 à 29. Dieu donne de son esprit aux 70 anciens. Le Seigneur descendit dans la nuée et lui parla. Il préleva un peu de l'esprit qui était en Moïse pour le donner aux 70 anciens. Dès que l'esprit se posa sur eux, ils se mirent à prophétiser. Mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes étaient restés dans le camp. Ils s'appelaient l'un Eldad et l'autre Médad. L'esprit se posa sur eux. Ils étaient en effet sur la liste, mais ils n'étaient pas sortis pour aller à la tente. et ils prophétisèrent dans le camp. Un garçon courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp. » Josué, fils de Noun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, intervint. « Moïse, mon seigneur, arrête-les » Moïse répliqua. « Serais-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le Seigneur aurait mis son esprit. » Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. « Alors vous, les riches, pleurez à grand bruit sur les malheurs qui vous attendent. Votre richesse est pourrie, vos vêtements rongés des vers. Votre or et votre argent rouillent, et leur rouille servira contre vous de témoignage. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous vous êtes constitués des réserves à la fin des temps. Voyez le salaire des ouvriers qui ont fait la récolte dans vos champs. Retenus par vous, ils crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur Sabaoth. Vous avez eu sur terre une vie de confort et de luxe. Vous vous êtes repus au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. Il ne vous résiste pas. » Marc, chapitre 9, versets 38 à 48. Jean lui dit : « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit : « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. » Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. »
Voilà des textes bien dérangeants, puissants certes, mais dérangeants. Tous sont perturbants. Attention-nous à décrypter ceux tirés du livre des Nombres et de l'évangile de Marc. L'un et l'autre, assez proches par le sens, nous disent des choses que nous avons du mal à concevoir, souvent tendance à occulter ou à laisser sous le boisseau, tant elles vont à l'encontre de ce que nous croyons juste et vrai. Qu'elle est difficile à accepter, l'idée selon laquelle il serait possible, et même parfois utile, de promouvoir ou défendre une cause, quelle qu'elle soit, sans avoir au préalable bénéficié de la formation nécessaire pour le faire. Est-il possible de prophétiser sans faire partie du cénacle des sachants, des initiés, de ceux qui, en raison de leurs compétences et de leur position en son sein, sont acceptés et reconnus par les membres d'un groupe? De ceux qui ont fait l'effort de s'engager, qui ont de longue date accepté de répondre à un appel. Dans le livre des Nombres, il est dit qu'Eldad, l'aimé de Dieu, si l'on en croit les traductions, et Médad, qui signifie « amour », n'avaient, dans un premier temps, même pas jugé bon de sortir de leur tente pour répondre à l'appel de l'Esprit de Dieu. Pourtant, Moïse ne leur conteste pas le droit de prophétiser. Dans l'évangile de Marc, la transgression est encore pire, puisque l'homme qui prétend chasser les démons au nom de Jésus n'est connu ni de Jésus, ni des disciples. Pourtant, là encore, Jésus ne lui conteste pas le droit de le faire. Ces passages tirés de ces deux livres donnent l'un et l'autre une même réponse qui heurte notre logique, puisqu'ils affirment que cela est possible. Les réponses de Moïse et Jésus sont sans appel et très explicites. Pourtant, ceux qui posent et se posent non sans raison la question de la légitime autorité d'une parole donnée ne sont pas les premiers venus. Josué fut le successeur de Moïse et les disciples furent chargés de faire connaître et de diffuser la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. C'est dire la confiance dont ils bénéficiaient de la part de leur guide spirituel. Moïse comme Jésus, par leur réponse, les déstabilise là où ils ne s'y attendaient pas. Pour eux, qui depuis si longtemps suivaient fidèlement leur maître tout en bénéficiant de leurs enseignements, quelle douche froide! Moïse comme Jésus reconnaissent implicitement que tous, à un moment ou l'autre de leurs existences, peuvent être amenés à prophétiser ou être porteurs d'une parole qui les dépasse. La lumière du Saint-Esprit n'est pas réservée à une élite, mais tous sont appelés un jour ou l'autre à être illuminés par elle et à être les missi dominici d'une parole divine. Quel scandale! Cette affirmation de ces deux grandes figures du monothéisme a quelque chose peut-être de scandaleux, comme nous venons de le dire, mais surtout de déroutant, voire d'inquiétant. Comment, dans ces conditions, faire la part entre ce qui peut relever du divin et ce qui peut être à l'initiative du malin pour séduire et égarer? Quel garde-fou avons-nous pour discerner le vrai du faux, le vrai prophète du faux prophète? Comment discriminer le vrai disciple du manipulateur pervers qui utilise son intelligence pour dévoyer un message afin de séduire, réduire, puis soumettre? C'est une réelle difficulté que nous devons savoir affronter. Jésus lui-même nous a mis en garde contre les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Et quelques versets plus loin, ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, les versets 15 et 16, et puis le verset 20. C'est là une grande responsabilité à laquelle nous sommes appelés, nous qui sommes si prompts parfois à confondre le beau fruit et le bon fruit, celui qui séduit et celui qui nourrit. C'est bien toute notre intelligence, mais aussi toute notre foi, notre culture, notre sagacité qui sont convoquées afin que nous soyons capables de discernement. Sur cette terre qui est nôtre, il ne manque pas, à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, les faux prophètes qui instrumentalisent la parole de Dieu pour en faire un outil à leur service et ainsi asseoir leur désir de puissance et de domination sur le monde et les hommes. Cela a toujours été, et l'est encore. Tous, à un moment ou l'autre, nous pouvons tomber et succomber sous le charme des sirènes de la puissance et du pouvoir, tant leur musique est douce à nos oreilles. Tu es le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus juste, le plus fidèle. Flattant ce qu'il y a de plus vil et de plus mesquin en nous, comment résister à ces tentatives de séduction? Nul n'est à l'abri d'une chute, même les plus grands d'entre nous. Sébastien Castiglione écrivit un jour à Calvin, lui reprochant de n'avoir rien fait pour éviter l'exécution de Michel Servet. « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une cause, c'est tuer un homme. » Et d'ajouter « On ne prouve pas sa foi en brûlant un homme, mais en se faisant brûler pour elle. » Quelle leçon pour nous aujourd'hui, quelle belle grille de lecture pour analyser les comportements de ceux si nombreux qui, à travers le monde, pillent, asservissent, tuent et massacrent, se justifiant de Dieu lui-même. Ne soyons pas dupes de cela et restons vigilants à le dénoncer. Poursuivant dans ce sens, il me semble que nous pouvons aller plus loin encore. Si les messagers de la parole ne sont pas toujours ceux que l'on croit, nous nous attendrions cependant assez légitimement à ce que les porteurs d'une parole forte, inspirée par une pensée divine, soient les membres d'un clergé bien reconnu, bien identifié dans les différentes églises et assemblées de fidèles, et qu'au moins ce ne soit pas parmi eux que se trouvent les faux prophètes. Des individus choisis pour leur sagesse, leur formation, leur statut, évêque, pasteur, pope, rabbin, imam, et que sais-je encore. Eh bien non. Un regard cursif sur le monde qui nous entoure nous montre à l'évidence que les vrais artisans de la paix ne sont pas toujours ceux qui auraient vocation à l'être. Dans toutes les religions, ils sont nombreux ceux qui se servent de leurs connaissances, de leur statut pour justifier des massacres, des conquêtes et autres aventures militaires au lieu de les condamner. Je ne vais pas faire ici une liste exhaustive des responsables religieux qui donnent largement leur bénédiction à des criminels au nom d'un Dieu qu'ils réduisent au silence et dont ils se prétendent les héros. Ils sont habiles à justifier l'injustifiable. Méfions-nous comme de la peste de ceux qui affirment de façon péremptoire « Dieu pense » ou « Dieu veut ». Ils sont sans doute les plus acharnés des faux prophètes, car qui peut avoir l'immense orgueil de prétendre connaître la pensée de Dieu sans être en réalité un manipulateur ou un menteur? Cela donne du grain à moudre, et comment le leur reprocher, aux agnostiques et aux athées, qui justifie ainsi les paroles de Karl Marx, qui disait que la religion est l'opium du peuple. Essayons humblement, par la réflexion, la méditation des textes fondateurs et la prière, d'essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous, de chacun d'entre nous, à la place qui est la sienne. Ne nous risquons jamais à prétendre parler au nom de Dieu, mais essayons humblement de comprendre ce qu'il attend effectivement de nous. Tout cela invite à une grande humilité. Chaque fois que par la méditation des textes, la prière et l'appel à l'esprit, nous essayons de comprendre la volonté et le projet de Dieu pour nous. Sachons être des veilleurs, toujours en quête de la part du divin, qui s'exprime au travers des événements que nous vivons. Prêts également à être surpris et accepter que la voix de Dieu ne s'exprime pas toujours au travers de ceux que nous croyons être les plus habilités à le faire. Un exemple tiré de l'actualité récente m'a semblé particulièrement significatif à ce propos. Nous savons tous combien les manifestations qui ont eu lieu au moment des cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques ont été commentées. Magnifiques d'ouverture et de tolérance pour certains, elles auraient été irrespectueuses pour d'autres, plus particulièrement du monde chrétien, en parodiant la célèbre scène de Léonard de Vinci. Pour ce qui me concerne, c'est plus la décapitation de Marie-Antoinette qui m'a heurté que cette scène, encore qu'elle m'ait surprise. Tant je pense que sur le plan du combat politique pour l'égalité et la justice, je me sens plus en adéquation avec Sébastien Castiglione et Rabault-Saint-Étienne qu'avec Danton et Robespierre. Mais qu'importe. Je ne vais pas entrer dans la mode polémique qui a fait les titres des journaux entre parodie de la scène et repas bachique, se référant au dieu grec éponyme. Je n'en ai ni le souhait ni la compétence. Aidé en cela par mon épouse, je me suis simplement posé la question suivante. Et si le Christ revenait, qui seraient les éprouvés, entre guillemets, qu'il viendrait relever? Qui seraient ceux vers qui se dirigeraient ses pas? Ceux avec qui il serait prêt à partager un repas pour leur signifier et nous signifier qu'ils sont autant que nous dignes de respect et qu'autant que nous, ils sont aimés de Dieu. Alors, au-delà de la provocation, volontaire ou non, je me suis dit qu'il y avait peut-être là un message porteur d'une réelle espérance. Ai-je raison? Ai-je tort? Chacun, dans le secret de son cœur, apportera la réponse qui lui convient à cette interrogation. Ce que je crois fermement, c'est que des propos ou des manifestations qui invitent fermement à la tolérance et à la reconnaissance de l'autre dans sa radicale différence ne peuvent être balayés d'un simple revers de la main. Parce qu'au-delà de la simple écume qui nous aveugle, c'est en eau profonde qu'il faut aller chercher la source de la vie et la lumière de l'espérance. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen.
Avec le théologien Gabriel Vahagnan, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en qui l'homme est la condition même de Dieu, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que l'absolu ne l'est du divin. Arts et vertus de l'esprit et chair de la chair de Marie, il est natif de l'humain. Crucifié et mort sous Ponce Pilate, il accepte la mort mieux que nous acceptons la vie et nous fait don de la vie au lieu d'en mourir. Et il vit. Il vit là où, événement de Dieu, l'autre radical, l'homme est à portée de l'homme. Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts, il vient libérer l'homme de ses idoles et lui rendre un visage divin. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant, en qui, faisant corps avec nous-mêmes, nous sommes agrégés au corps du Christ. Je crois l'Église, anticipation de Dieu qui vient et renouveau du monde. L'homme, anticipation de l'homme nouveau et avant du Dieu qui règne. Amen. Avec l'Église protestante unie de Beauvais, prions les uns pour les autres. Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. Et quelle terre ! Nous vivons dans un monde qui peut être si beau, une terre où nous semons chaque fois des graines avec l'espoir qu'elles vont éclore, et où nous plantons pour embellir, ou simplement pour se nourrir, et où, pour beaucoup d'entre nous, c'est de plus en plus difficile de voir cette beauté. Avec la guerre qui sévit en Ukraine, avec les atrocités en Israël et en Palestine, le cynisme des soi-disant leaders du monde, notre terre qui court à sa perte. Seigneur Dieu, aide-nous à croire en ta bonté, aide-nous à soulager ceux qui ont mal, dans leur chair ou dans leur vie, à être présents pour eux. Sois auprès de ceux qui sont malades, ceux qui souffrent si fort et ceux qui doivent subir des interventions lourdes. Aide-les à avoir confiance en toi. Aide leur famille. Sois auprès de tous les peuples déplacés, ceux qui ont faim, qui sont affaiblis par la maladie. Que toutes ces horreurs, toutes ces violences n'engendrent pas d'autres haines, d'autres vengeances. Donne la sagesse à ceux qui nous gouvernent. Guide-les pour prendre de bonnes décisions. Ouvre les yeux de ton peuple, où qu'il soit, quel qu'il soit, au peuple du monde entier pour qu'il ne cède pas aux sirènes des extrêmes, des extrémistes et autres fanatiques. S'il te plaît, viens nous en aide. Le monde, l'humanité que tu as créée, les animaux, les arbres, les fleurs, ont tous besoin de toi. Car nous pouvons te dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. »
Allons sur les chemins où le Seigneur nous appelle, suivant en cela ce que Colette Nies-Mazur a écrit un jour. Si l'on vous dit que l'Évangile est un cours de morale, dites que c'est une histoire d'amour. Si l'on vous dit que l'Évangile ne sert qu'à interdire, dites que vous y avez trouvé la liberté. Si l'on vous dit que l'Évangile, ce sont des mots en l'air, dites que Dieu qui promet la vie n'a jamais menti. Si l'on vous dit que l'Évangile ne sert à rien, dites que l'amour n'a jamais servi à rien, à part nous rendre heureux. Allez dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-eglise-protestante-unie.fr ou en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de Nîmes, avec la collaboration d'Anne-Marie Cavalier. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.